Chacun de nous vit ses propres combats. Chacun de nous vit ses propres épreuves. Maladie, enfant difficile, tension dans le couple, relations tendues dans la famille élargie, solitude et bien d'autres encore. À cela s'ajoute le stress, la peur, l'angoisse, l'épuisement. Les lieux où beaucoup se réfugient ajoutent à nos problèmes. Addiction à l'alcool, aux jeux en tout genre, aux réseaux sociaux, à la pornographie, aux informations. Les épreuves sont très intenses chez certains et moins chez d'autres. Mais plus généralement, nous sommes tous dans le même bateau. Nous vivons dans un monde qui va mal. Famine, épidémie, guerre, violence, persécution, inflation, problème d'essence. En parlant de carburant, vous avez sans doute entendu l'histoire du jeune homme de 20 ans qui a perdu patience à la station-service et a poignardé 6 fois un autre automobiliste sous les yeux de ses 2 enfants. Situé à l'arrière de la voiture. Heureusement, la victime, conduite en urgence absolue au centre hospitalier de Genève, s'en est tirée. C'est de la folie. Dans un article qui rapporte cette histoire, nous lisons cette question. Les gens seraient-ils en train de devenir fous en ce moment, à la pompe à essence ? Récemment, j'ai demandé à un ostéopathe, comment ses patients vivaient dans cette période. Il m'a dit ceci, la période est compliquée. Les gens avaient la tête sous l'eau, ils pouvaient la sortir, mais seulement pour la remettre sous l'eau et ainsi de suite. On pourrait traduire ce qu'il a dit ainsi, les gens avaient la tête sous l'eau pendant le confinement, lorsque le virus Covid-19 est arrivé, tuant des milliers de personnes. Puis finalement, on put respirer parce que les choses semblaient aller mieux. Mais les circonstances actuelles font qu'ils ont à nouveau la tête sous l'eau. Guerre, inflation, et puis s'ajoute aussi la peur de l'avenir. Concernant, on a parlé de l'essence, le gaz, l'énergie, même la nourriture. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais ma prière est que vous soyez encouragés par la parole de Dieu et que vous trouviez l'espoir en Christ au milieu des luttes auxquelles vous pourriez être confrontés. Vous savez, quand les choses tournent mal, notre confiance en Dieu peut être sérieusement ébranlée. Jésus lui-même a dit quelque chose de très fort à ce sujet. Un jour, il a donné comme illustration l'histoire du semeur qui sortit pour faire ses semailles. Pendant que ce semeur répandait sa semence, des graines sont tombées à différents endroits, au bord du chemin, sur la pierre, parmi les ronces et sur la bonne terre. Les disciples de Jésus n'ont rien compris à son histoire. Et dans son explication, Jésus dit que la semence, c'est la parole de Dieu et que les différents chemins, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et voici quelque chose de très parlant pour nous. Jésus dit ceci à propos de la parole de Dieu tombant sur la terre. Je cite Luc chapitre 8, verset 13. « Ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. » Écoutez la suite. « Lorsque survint l'épreuve, ils abandonnent tout. » Oh. Jésus dit clairement ici que ceux qui n'ont pas laissé sa parole s'enraciner en eux ont une foi passagère, éphémère. Ils sont si fragiles que les épreuves peuvent les amener à se détourner de Dieu et même à tout abandonner. Abandonner la foi. Mes amis, quand les choses tournent mal, notre foi peut être sérieusement ébranlée. Même pour tout chrétien mûr dans sa foi. Il peut y avoir des moments où nous remettrons en question l'existence de Dieu. Oui, oui, oui. Nous remettrons en question son amour pour nous, sa toute-puissance. Il y a des moments où nous serons même en colère contre Dieu. Quand on arrive à un moment de crise, quand tout va mal, il nous arrive toutes ces choses. Il peut nous arriver toutes ces choses. Et voici ce que nous sommes capables d'exprimer dans nos souffrances lorsque notre foi est ébranlée. Que fait Dieu ? Combien de temps dois-je endurer cette souffrance ? Pourquoi Dieu me fait-il passer par là ? Dieu ne comprend pas ce que je traverse. Il ne peut pas agir dans ma situation. Je ne peux plus supporter cette souffrance. Je n'en peux plus. Et attention à nous, chrétiens. Quand nous avons un frère, une sœur dans la foi qui vient nous voir et qui souffre et qui, dans son langage, remet peut-être en question l'amour de Dieu, ce serait dangereux de notre part de dire « Mais non, Dieu, Dieu t'aime, mais non !» Bien sûr que c'est, vous avez raison, mais la personne est dans sa souffrance et elle a besoin d'exprimer sa souffrance à Dieu, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que nous sommes dans une série de prédications sur le livre de Néhémie qui s'intitule « Bâtir l'avenir avec Christ ». Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 4. Et dans tout ce que nous allons voir ce matin, ça va nous aider à répondre à plusieurs questions. Alors, dans notre vie personnelle, par exemple, comment pouvons-nous faire confiance à Dieu quand tout va mal ? Une autre question est, dans notre vie d'église ou dans un projet d'église, que faire quand les difficultés s'accumulent ? Le livre de Néhémie nous aidera à répondre à ces questions. Je vais juste rappeler un peu le début du livre. Néhémie est un Hébreu qui a été utilisé par Dieu d'une manière extraordinaire pour permettre au peuple de Dieu de reconstruire les murs de la ville de Jérusalem qui était en ruine. Vous pouvez voir la carte ici en relief qui montre la localisation probable des murs intérieurs et extérieurs de la ville. Le chapitre 3 que nous avons vu il y a deux dimanches était impressionnant. Nous avons vu en Néhémie un homme ultra organisé, un peuple qui s'est mis au travail avec humilité, zèle, persévérance. Ils ont été très rapides dans cette reconstruction. Ils étaient impressionnants par leur unité, leur rapidité, leur efficacité. Mais nous arrivons maintenant à une histoire de conflit. Avant le chapitre 4 ou au chapitre 4, au début du chapitre 4, selon la version de Bible que vous disposez, nous avons vu que Sambala s'est emballé. Devant l'avancée des travaux de la ville de Jérusalem, Sambala, d'un autre peuple, est devenu très mécontent et s'est mis violemment en colère. Pour déstabiliser le peuple de Dieu et le décourager, Sambala s'est moqué de lui et l'a humilié en public. Néhémie a prié Dieu pour la justice pour son peuple. Et Dieu a répondu en donnant à son peuple la capacité de continuer à travailler avec persévérance et de tout son cœur face à l'opposition. C'est beau. Mais la tension monte de plusieurs crans. Voilà la suite dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 2. Je cite. « Lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semaient le désordre. » Ouh. Maintenant, il y a encore plus de monde contre le peuple de Dieu et contre la reconstruction de Jérusalem ici. Avant, il y avait 3 mousquetaires de malheur au chapitre 2, n'est-ce pas ? Pour ceux qui se rappellent de quoi je parle dans les messages précédents. Et maintenant, il y a 5. Tous très en colère contre le peuple de Dieu. Ainsi, les ennemis, dans leur désir de faire le mal, ont enrôlé tous ceux qui pouvaient les accompagner pour essayer de mettre fin à l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ont suivi les précédentes prédications, vous souvenez-vous des 4 M ? Mensonge, mépris, menace, et moquerie. Bravo. Les ennemis, là, veulent maintenant attaquer le peuple de Dieu. Il y a vraiment des menaces très fortes ici. C'est terrible. Les ennemis de Samarie, au nord, sont désormais rejoints par les alliés du sud, arabes, et l'est, ammonites, et de l'ouest, ashdodites. Et le peuple de Dieu donc est entouré de plusieurs peuples très en colère, hostiles et agressifs. Mes amis, comment pouvons-nous faire confiance à Dieu quand tout va mal? En tout cas, dans le texte là, tout va mal. Hein. Que faire quand tout semble tourner au vinaigre et qu'il n'y a plus d'issue visible? Premièrement, prions ensemble et soyons vigilants. Prions ensemble et soyons vigilants. Néhémie chapitre 4, verset 3. Je cite, « Alors nous avons prié notre Dieu. » Ah, c'est beau ça. Juste ça. « Alors nous avons prié notre Dieu. » Néhémie, on le sait, avait déjà prié seul. Et c'est la première chose à faire quand les choses tournent mal, n'est-ce pas? Néhémie avait exposé son cœur. Il n'avait pas caché ce qui n'allait pas. Il était venu dans la présence de Dieu avec ses émotions brutes. Et il avait crié à Dieu pour qu'il agisse. C'est ce que nous devons faire quand tout tourne mal. Nous devons venir à Dieu et tout lui dire, exposer notre cœur et ne rien lui cacher, ne pas lui cacher nos émotions, un peu comme les mots que j'ai sortis tout à l'heure. Et même ça peut parfois nous amener à dire « Seigneur, je suis en colère contre toi. » Parce que nous arrivons avec nos émotions à vif et Dieu donne une place à de telles prières. Mais à un moment donné, nous ne pouvons pas rester seuls. Néhémie avait déjà prié seul, mais la situation devenait trop dangereuse pour rester seul à prier. Le peuple de Dieu s'est mis ensemble pour prier pour la protection, pour la délivrance, pour que Dieu repousse l'ennemi. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin dans la détresse? De ne pas rester seul, mais d'au moins en parler à quelqu'un avec qui nous pouvons prier? Combien de fois j'ai voulu faire le fort dans mes combats personnels. Mais le jour où j'ai osé ouvrir ma vie à quelqu'un pour lui dire ce qui n'allait pas au fond de mon cœur, j'ai commencé à voir plus clair ma situation. J'ai commencé à prendre du recul et à trouver l'encouragement dont j'avais besoin. Et même à avoir plusieurs victoires. Dieu m'a donné de nombreuses victoires parce que j'ai osé ouvrir mon cœur à un frère. Je suis pasteur, mais j'ai besoin d'aide, les amis. Il n'y a pas de surhomme sur terre. Ça n'existe pas. Depuis plusieurs années, j'ai un frère qui m'accompagne dans ma relation avec Dieu. Je peux vous dire que les bénéfices sont immenses. Nous avons besoin des autres. Je ne dirai jamais assez ici. Si vous traversez un temps difficile, ne restez pas seul. Nous avons besoin les uns des autres. Au moins une personne de confiance et mature dans la foi qui saura nous encourager, nous épauler, prier avec nous. C'est tellement précieux. C'est l'une des choses les plus extraordinaires à vivre dans la famille de Dieu qu'est l'Église. Être soutenu dans nos combats. Nous l'avons entendu dans ce que j'ai lu tout à l'heure de Michel. Dans notre projet d'Église, où nous voulons agrandir les locaux afin qu'ils soient plus pratiques pour nos projets gospel, mieux adaptés pour nos enfants et nos jeunes, et plus grands pour accueillir plus de monde, il y aura des moments difficiles. Alors je vous rassure, je ne suis pas en train de donner une prophétie. C'est juste une réalité. Comme nous l'a dit Steve dans sa prédication sur Néhémie 2, l'opposition est inévitable lorsqu'on se lance dans un projet pour que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. Quand on se lève pour Christ, vous verrez qu'il y a des oppositions. Dans ce beau projet, lorsque nous verrons des difficultés sur notre chemin, ne soyons pas surpris. Il y a une chose importante à relever dans Néhémie chapitre 4, verset 3. « Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. » Intéressant. La prière était au rendez-vous, mais aussi la prudence. La prudence. Le peuple de Dieu faisait face à de terribles ennemis. Il y avait donc une garde 24 heures sur 24. Ceci est même répété à la fin du chapitre 4, au point que ça dit que les personnes dormaient sans se déshabiller, enfin ils ne changeaient pas de vêtements. Donc ils étaient prêts au combat. Et puis dans les versets 10 à 12, il est dit que la moitié travaillait et l'autre moitié montait la garde. Donc les travaux ont pris un peu plus de... C'était un peu plus lent que... Un peu, voilà, plus lent qu'avant, puisque une bonne moitié montait la garde. Et puis ceux qui... Surprenant, ceux qui étaient occupés à reconstruire les murailles travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Je ne sais pas comment ils faisaient, hein, ouais. Ah. Bon. Et puis, au verset 13 à 14, Néhémie avait constamment un trompettiste à ses côtés pour sonner l'alarme afin de rassembler le peuple en cas d'attaque. Il y avait donc une vigilance constante. Une vigilance constante. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Quelque chose de fort, les amis. Pour nous, chrétiens, nous devons nous rappeler qu'au-delà des épreuves, qu'au-delà des difficultés, nous avons un ennemi. Satan attaque. Les démons attaquent. Ils font tout pour nous décourager, afin de nous freiner dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Combien de fois Satan s'est frotté les mains de joie parce qu'il a réussi à arrêter l'œuvre de Dieu ? En décourageant les chrétiens par des commentaires négatifs, des intimidations, des paroles mensongères, des menaces, des paroles qui culpabilisent. Ne laissons pas l'ennemi avoir la victoire sur nous. Voici l'une des images les plus effrayantes, affreuses du Nouveau Testament. Je cite 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Il ne joue pas, hein. Il n'y a pas de blague là. Et ce texte n'est pas entre crochets dans nos Bibles. Hein. Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Lorsque nous traversons des moments difficiles, l'ennemi en profite pour attaquer, pour chercher à affaiblir notre foi, à nous éloigner de Dieu, de sa parole, de la confiance en lui. Il veut nous pousser à la peur, au doute, à l'incrédulité, et comme il a fait avec Adam et Ève. Mais Dieu a-t-il vraiment dit ça ? Combien de fois Dieu fait ça avec nous ? Enfin, le diable fait ça avec nous, pardon. Il nous amène des doutes vis-à-vis de Dieu, de son amour, de sa grâce, de sa fidélité. Non, mais Dieu n'est pas fidèle. Puisque tu as vécu ça, tu vois bien que ça ne va pas. Tu vois bien que Dieu n'est pas stable. Tu vois bien que Dieu ne t'aime pas. Et puis nous, on est là à entendre ses paroles. Satan veut nous pousser à la peur, au doute, à l'incrédulité. Il veut surtout que nous abandonnions la foi. Que faire face à ces attaques ? Le texte de 1 Pierre nous donne deux clés. Tout d'abord, il dit au verset 8, « Faites preuve de modération et soyez vigilants. » Et puis le verset 9, « Résistez-lui. » Comment ? En demeurant ferme dans votre foi. Il ne faut pas jouer avec lui. Hein. On n'est pas en train, on parle pas avec le diable. On ne s'adresse pas à lui. Parce que je sais que c'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais plus jeune dans ma foi. Et puis, j'étais là dans le combat spirituel. Satan, nanana, youlou. Et on s'est atterré des ennuis dans la maison. Et je peux vous dire qu'après un rêve qu'on a fait avec ma mère et moi, on a eu le même rêve qui nous a révélé que non, on ne prie pas comme ça. On prie Dieu. On s'adresse à Dieu, mais on ne s'adresse jamais à l'ennemi. À moins qu'il y a certaines situations où il nous faut chasser un esprit mauvais, et là, il ne faut pas s'improviser. Et c'est mieux d'aller vers des personnes qui savent le faire et qui sont matures dans leur foi. Les amis, on pourrait dire, comme le font Néhémie et le peuple de Dieu, être constamment vigilant et tout faire pour qu'il n'y ait pas de brèche dans les murs, afin qu'aucun ennemi ne puisse entrer et remporter des victoires sur nous. J'ai redit, être constamment vigilant et tout faire. Ce que nous devons faire, c'est être constamment vigilant comme eux et tout faire pour qu'il n'y ait aucune brèche dans nos murs, afin qu'aucun ennemi ne puisse entrer et remporter les victoires sur nous. La vigilance spirituelle consiste à continuer en toutes circonstances à passer du temps dans la prière, à continuer à passer du temps dans la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance, à continuer à vivre la communion entre frères et sœurs. Tout faire pour qu'il n'y ait pas de brèche dans nos murs, c'est faire attention à la brèche dans l'obéissance à Dieu qui a causé la chute d'Adam et Ève. La communion avec Dieu a été détruite par leur manque d'obéissance, par lequel le péché a pu s'emparer des êtres humains. C'est encore cette brèche qui est la cause de beaucoup d'échecs et de chutes dans la vie des chrétiens, de nombreux chrétiens. J'entendais un frère qui disait, en parlant de personnes qui, beaucoup de frères ou de sœurs, qui étaient dans la culpabilité parce qu'elles tombaient constamment dans la pornographie. Il disait, vous êtes en train de, en étant constamment dans la culpabilité, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça vous amène à moins servir Dieu, à moins être zélé pour Dieu. Peut-être que les pasteurs dont la France a besoin sont des personnes en fait qui sont en prise avec des péchés, de culpabilité, qui les maintiennent dans la culpabilité. Les brèches freinent vraiment le zèle et notre amour pour Dieu. Ne laissons aucune brèche. Tout faire pour qu'il n'y ait pas de brèche dans nos murs, c'est faire attention à la brèche dans la vie de prière et dans notre sainteté. Car ça ouvre la porte à l'ennemi. Si notre vigilance est perméable, il s'infiltre dans notre être intérieur. Il a suffi à David, grand roi de l'Ancien Testament, d'oublier de veiller sur ses yeux et son imagination pour qu'en s'en suive une série de péchés. Vous vous rappelez? Adultère, meurtre, et j'en passe. Des conséquences graves. Tout faire pour qu'il n'y ait pas de brèche dans nos murs, c'est faire attention à la brèche dans l'amour fraternel. Cette brèche réjouit Satan lorsqu'il voit des disciples de Jésus se diviser et se disputer à tout propos. Nos brèches sont les moyens par lesquels Satan remporte ses victoires sur nous. Mes amis, à quoi nous servent de grandes connaissances bibliques, des grandes connaissances théologiques et des expériences extraordinaires peut-être dans des temps de louange, etc. Des expériences extraordinaires. À quoi ça nous sert tout cela si nous négligeons nos brèches? Ne laissons aucune brèche dans notre vie, ni dans notre vie d'église, afin que l'ennemi ne soit pas victorieux sur nous. Allions prière, communion fraternelle, vigilance pour que notre confiance en Dieu reste inébranlable. Comment faire confiance à Dieu quand tout va mal? Deuxièmement, faire confiance à notre grand Dieu. Lisons la suite dans Néhémie, chapitre 4, versets 4 à 6. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait. Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombres reste énorme. Jamais nous n'arriverons à bâtir cette muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. Ici, nous voyons que malgré la prière commune et la prudence, le peuple de Dieu cède au découragement. Leurs yeux sont fixés sur 2 choses. Ils sont épuisés, on n'en peut plus, on est fatigué, et l'état de décombre reste énorme. Au découragement s'ajoute la peur. Les Juifs qui vivent avec les ennemis sont venus 10 fois. 1, 2, 3. Attention, attention, help. Et puis, donc, pour avertir le peuple de Dieu que les ennemis viendraient contre eux et détruiraient leur ville s'ils n'arrêtaient pas de, leurs travaux et ou ne fuyaient pas la ville rapidement. Le travail ne peut pas continuer, les amis, si le peuple de Dieu se laisse paralyser par la peur. Vous avez connu une peur qui vous a déjà paralysé? Oui? Non? Je suis le seul? La peur peut vraiment nous paralyser dans l'œuvre de Dieu. Le travail ne peut pas continuer si le peuple de Dieu se laisse envahir par la peur. Et comment sortira-t-il donc du découragement et de la peur? Nous voyons la suite, verset 7. « C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas, derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. » Némi ici a renforcé la sécurité du peuple en plaçant des gens derrière les murs, en les postant regroupés par famille et en fournissant des armes pour se protéger. Donc, quelque chose qui peut aider quand on a peur, n'est-ce pas? Mais comme le peuple est découragé et dans la crainte, Némi va plus loin. Il encourage les notables, les chefs et tout le peuple. Ainsi, il le fait au verset 8. « N'ayez pas peur, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable. » Ça, c'est le cœur du message maintenant. Tout s'écroule si on n'a pas ça. Tout est là, les amis, quand tout va mal. Alors que le peuple de Dieu a les yeux fixés sur son épuisement, fixés sur le tas de gravats qui est énorme et sur les ennemis qui le menacent, Néhémie l'invite à détourner ses yeux de tout ça et à fixer plutôt les yeux sur Dieu lui-même. Et il ne s'arrête pas à Dieu. Dieu qui est, ils ont besoin d'entendre la suite, qui est grand et redoutable, plus grand que tous vos problèmes et plus redoutable que vos ennemis. J'aime ce que James Packer a écrit. Il a donné une citation extraordinaire. Je la cite. « Tout au long de la Bible, la confiance en Dieu s'appuie sur le caractère de Dieu. » Il a tout dit là. Tout au long de la Bible, la confiance en Dieu s'appuie sur le caractère de Dieu. Les épreuves peuvent nous faire perdre de vue Dieu et combien il est grand, puissant et redoutable. Lorsque nous perdons le contrôle des circonstances et avons l'impression que tout va mal, notre confiance en Dieu peut s'affaiblir. Dans de tels moments, nous devons nous rappeler que Dieu est grand et redoutable. Voici comment nous pouvons nous rappeler la grandeur de Dieu dans nos épreuves. Premièrement, continuons à nous nourrir de la parole de Dieu. Tout commence là. Je n'invente pas que Dieu est grand. Sa parole le dit. La création me le révèle. Mais j'ai besoin de sa parole qui me le dit, qui me le redit, de ce rappel constant de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va m'encourager dans cette lecture et méditation de la parole. Donc quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la Bible. Enfin, louons Dieu malgré les circonstances. Pas simple cela, mais de continuer à louer Dieu. Plus je loue Dieu pour sa grandeur, plus mes difficultés, mes épreuves sont petites. Plus je suis dans la louange et plus je suis conscient de la grandeur, de l'amour, de la puissance de Dieu. Et puis enfin, ça c'est important lorsque nous passons par des temps difficiles, tout simplement faire comme Néhémie l'a fait avec le peuple, se dire les uns aux autres, Dieu est grand, Dieu est redoutable. Le fait de vous avoir entendu louer Dieu, d'entendre les louanges des autres, ça m'encourage. Quand j'ai un frère et une sœur qui me rappellent qui est Dieu, ça m'encourage. Nous avons besoin de se le dire les uns aux autres. Mes amis, comme le peuple de Dieu, lorsque les difficultés surgissent, nous devons prier ensemble, nous organiser, continuer à servir Dieu malgré les circonstances, mais tout cela ne suffira pas à dissiper le découragement et la peur. Tous nos efforts ne sont que du vent s'ils ne sont pas basés sur la confiance en Dieu qui est grand et redoutable. En se souvenant que Dieu est grand et redoutable, le peuple de Dieu se souvient aussi qu'il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son peuple. Il défendra son peuple dans le présent comme il l'a fait dans le passé. Voici comment Néhémie exprime ensuite sa confiance en Dieu dans le verset 14, c'est énorme. « Notre Dieu combattra pour nous !» Waouh ! C'est fort. Puisse une telle confiance en Dieu nous habiter. Puisse une telle confiance en Dieu nous animer jour après jour, dans les moments difficiles, dans notre projet aussi d'agrandissement. Le grand et redoutable Dieu de l'univers est avec nous. Il combattra pour nous. Mieux encore, notre Dieu a déjà combattu pour nous en Christ et a remporté la plus grande victoire. Il a remporté pour nous la victoire sur le péché et la mort. Par sa mort et sa résurrection, il rend possible le pardon des péchés, la vie éternelle, notre relation est rétablie pour l'éternité, le paradis est pour nous. Waouh ! Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour être réconcilié avec Dieu, pour recevoir la vie éternelle, venez à lui maintenant. Venez à Jésus pour être réconcilié avec Dieu et faire l'expérience de sa présence dans votre vie. Comment faire confiance à Dieu quand tout va mal? Troisième et dernier point, combattons pour le bien et la gloire de Dieu. Nous avons vu que Néhémie a encouragé le peuple ainsi, « N'ayez pas peur de penser au Seigneur qui est grand et redoutable », mais la suite dit aussi « Et combattez pour vos frères et vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons ». Vous avez vu qu'il y a trois verbes, trois ordres ici. « N'ayez pas peur, pensez au Seigneur, combattez ». C'est bon ça. « N'ayez pas peur, pensez au Seigneur, combattez ». Le peuple de Dieu ne doit pas seulement cesser d'avoir peur et penser à Dieu qui est grand et redoutable. Il doit aussi lui faire confiance. Et sa confiance en Dieu doit se traduire par des actes. Le peuple de Dieu doit donc manifester sa confiance en Dieu en étant prêt à se battre pour se défendre face à l'ennemi, afin de poursuivre la construction. Néhémie invite donc le peuple de Dieu à ne pas perdre son objectif. La fatigue, le découragement, la peur des ennemis ont non seulement fait perdre de vue la grandeur de Dieu, mais aussi l'objectif, la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. En disant « combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons », ils rappellent l'objectif, qui est de rebâtir la muraille afin que le peuple de Dieu puisse vivre dans la paix, puisse vivre dans l'harmonie et être enfin en sécurité. Et en disant de penser à Dieu qui est grand et redoutable, il rappelle aussi l'objectif du peuple qui est d'adorer Dieu. Nous faisons tout ça, mais c'est pour adorer notre grand Dieu et pour être ensemble un peuple qui témoigne du grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour que plusieurs disent oui à ce Dieu qui est notre créateur. Il est dit au verset 9, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. » Vous avez entendu ce qui est dit ici? Dieu avait ainsi déjoué leur plan, leur projet. C'est beau. Dieu a répondu à la prière de son peuple en déjouant le projet des ennemis. Tout le peuple s'est remis au travail. Mes amis, ne perdons pas de vue notre objectif dans les moments difficiles. Combattons pour le bien et la gloire de Dieu, non avec des armes, mais avec l'amour. Le but suprême que nous devons rechercher, c'est la gloire de Dieu, en trouvant notre plus grande joie en lui, en faisant du bien aux autres et en répandant la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres, quelles que soient les circonstances. Pour cela, quelle que soit l'intensité de nos épreuves et de nos souffrances, efforçons-nous d'honorer Dieu. Je répète, quelle que soit l'intensité de nos épreuves et de nos souffrances, efforçons-nous d'honorer Dieu. Pour honorer Dieu, que les époux qui souffrent dans leur relation à deux continuent à se battre pour sauver leur couple et vivre en harmonie. Pour honorer Dieu, que les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants continuent à se battre pour leur bien en maintenant des relations saines, en continuant à les élever dans un climat d'amour et de respect et en leur donnant envie de venir à Jésus-Christ. Pour honorer Dieu, que chaque employé qui éprouve des difficultés dans son travail, se battre pour le bien des autres en maintenant une bonne conduite, glorifie, oui, Dieu, et en travaillant de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Pour honorer Dieu, que ceux qui souffrent de solitude se battent pour la vie, continuent à construire des relations et soient des bénédictions pour les autres. Pour honorer Dieu, que vous, les jeunes, vous vous battiez pour ne pas suivre de mauvaises influences, mais plutôt pour vous-même influencer les autres, influencer votre génération. Pour Jésus, que vous vous battiez pour réussir vos études, afin d'avoir un travail et d'être aussi, à votre tour, des bénédictions pour les autres. Face à toutes sortes de difficultés dans l'Église, luttons pour prier, aimer, partager. Battons-nous pour grandir dans notre amour pour Dieu, vivre dans l'amour les uns pour les autres et partager l'amour de Dieu à celles et ceux qui ne sont pas encore croyants. Pour honorer Dieu, travaillons et luttons pour la croissance de l'Église d'Ozoir. Si Dieu confirme le projet d'extension des locaux de l'Église et que nous sommes bien ensemble dans ce projet, donnons-nous pleinement à ce projet, jusqu'au bout, dans un esprit de foi et de persévérance. Mes amis, le monde va mal et Satan attaque. Mais les enfants de Dieu doivent se battre sans relâche, dans la prière, la vigilance, la confiance et la persévérance. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais conclure. Comment faire confiance à Dieu quand tout va mal? Prions ensemble et soyons vigilants. Deuxièmement, faisons confiance à notre grand Dieu. Et enfin, combattons pour le bien et la gloire de Dieu. Je prie. Dieu notre Père, merci car tu es un Dieu grand et redoutable. Pardon pour toutes les fois où les épreuves nous ont fait perdre de vue qui tu es. Et l'objectif de bâtir avec toi l'avenir de l'Église. Notre Dieu, tu connais les difficultés de chacun ici. Tu connais les combats. Tu vois les personnes épuisées, découragées et peut-être paralysées par la peur. S'il te plaît, secours-les. Interviens dans leur situation. Renouvelle leur foi, leur confiance dans le Dieu tout-puissant que tu es, grand et redoutable. Agis maintenant dans notre Dieu et donne-leur ta paix et du courage. Notre Dieu, nous te demandons que dans les moments difficiles, nous sachions venir tout de suite à toi, t'exposer notre fardeau avec qui nous sommes, sans rien te cacher. Et que nous ne restions pas seuls, mais que nous prions avec un frère, une sœur dans la foi. Que nous restions vigilants aussi face à l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant. Seigneur, que le découragement et la peur ne nous atteignent pas. Ou en tout cas, que nous ne nous laissons pas submerger quand le découragement et la peur peuvent être présents. Mais que nous restions confiants en toi, qui est grand et redoutable. Seigneur, aide-nous enfin à continuer à te servir là où tu nous as placés, quelles que soient les circonstances. Agis en nous et par nous. Pour la seule gloire de ton nom. Amen.